Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour. Nous sommes toujours un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Nous avons commencé la semaine dernière à nous intéresser à l'histoire complexe de Saül, David et Jonathan. Vous vous souvenez, je vous ai montré le chapitre 18, qui est le début de l'histoire, mais qui, en fait, a la particularité que les passages en rouge, c'est un rappel, ne sont pas attestés dans les manuscrits de la Septante et ont donc beaucoup de chances d'être ajoutés très tardivement, en fait, à l'histoire. Donc ça veut dire, en fait, que dans l'ancienne histoire, au chapitre 18, on ne parlait pas encore de Jonathan. C'est un ajout, en fait, tout au début, en fait, qui a renforcé en fait ce lien entre David et Jonathan, qui dans l'histoire ancienne commençait au chapitre 19 seulement. Au chapitre 19, avec un projet de Saül de tuer David. Donc ça c'est, vous vous souvenez, ça s'est déjà mal passé au chapitre 18. Saül avait déjà fait toutes sortes de tentatives. Il l'avait mis dans son armée de sorte que éventuellement il sera tué dans le champ, etc. Et puis ici nous avons un texte qui est plutôt sobre où Saül parle à son fils Jonathan, à tous ses serviteurs, de son projet de faire mourir David. Or, Jonathan, fils de Saül, avait l'affection, on peut le traduire comme ça, chafetz, pour David. Ensuite, il y a le verset 2 et 3 qui sont probablement un ajout parce que tout d'un coup, il est question qu'ils sont dans les champs, alors que les champs vont jouer un rôle important au chapitre 20, mais pas ici au chapitre 19. Et puis ensuite, ça continue, Jonathan parla à son père Saül en bien pour David. Il lui dit que le roi ne pèche pas contre son serviteur David, car il n'a pas péché contre toi, et ses actions étaient très bonnes pour toi. Il a risqué sa vie, il a battu le Philistin, donc ça présuppose l'histoire de Goliath, et Yahvé a donné une grande victoire pour tout Israël. Tu l'as vu, selon la Septante, tout Israël l'a vu, et tu te réjouis. Pourquoi donc pécherais-tu contre un sang innocent en faisant mourir David sans motif? Saül écouta la voix de Jonathan, et Saül fait ce serment par la vie de David, par David de Yahvé, il ne sera pas mis à mort. Jonathan appela David, et Jonathan lui répéta toutes ses paroles. Puis Jonathan amena David à Saül, et David fut à son service comme auparavant. Donc tout ça, c'est très tranquille, en fait. Il n'y a que du discours, il n'y a pas encore d'autres événements dont on parlera au chapitre 20. Donc ici, c'est le début de l'histoire. Donc on pourra s'imaginer, l'auditoire, que Jonathan pourrait être content que Saül veut supprimer David, puisque, évidemment, Jonathan, c'est le dauphin, et David, c'est un concurrent peut-être indésirable. Et c'est pour cela, en effet, Saul peut penser que Jonathan pourrait apprécier, en fait, ce projet. Mais arrive donc cette remarque que Jonathan chafetz avait donc beaucoup de désir pour Jonathan. Donc c'est un verbe qui a une forte volonté d'appropriation, souvent plus par rapport à des choses qu'à une personne. Et si on a des personnes comme sujet, bah souvent c'est une connotation sexuelle. Par exemple, en Genèse 34, il a désir de Sichem pour Dina. Et puis, dans le Deutéronome, il est question d'une relation sexuelle entre une prisonnière et un homme qui ensuite n'a plus de désir pour elle. Donc, on comprend aussi la signification. Donc, ça veut dire, en effet, que dès le début, on nous apprend que cette attirance a une connotation érotique. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un grand débat. Voilà comment faut comprendre cette relation entre Jonathan et David. Mais au début, ça se passe calmement, mais Saül ne se contente pas d'être convaincu au début, puisque vient tout de suite, au chapitre 19, un deuxième attentat de Saül contre David. Donc là aussi, vous vous souvenez, au chapitre 18, Saül avait déjà en effet essayé de faire un attentat contre David avec sa lance, Et de nouveau, c'était un passage qui ne se trouve pas dans le texte ancien. Donc, dans le texte ancien, c'est la première fois. Et si vous regardez les deux passages, je ne vais pas les commenter en détail, mais vous constatez, en effet, ils sont relativement proches. Qu'est-ce qu'il y a comme différence si vous regardez les deux ? Il y a deux choses. Au chapitre 18, il est question que Saül entra en transe ou était prophétique. Donc vous vous souvenez, et ça va être un leitmotiv aussi qu'on va retrouver, que Saül souvent tombe en transe. De manière positive ou négative, ce n'est pas tout à fait clair. Et l'autre différence au chapitre 18, c'est un esprit mauvais de Dieu, donc relativement neutre. Et là, on dit que c'est un esprit mauvais de Yahvé. Donc là, c'est comme si Yahvé lui-même poussait, en fait, d'essayer de supprimer son concurrent David. Et tout de suite du chapitre, ça va être toujours que Saül va essayer de supprimer David, et David va être sauvé chaque fois, et deux fois en fait par des enfants de Saül même. Donc nous avons vu Jonathan au début. Jonathan parle simplement, apparemment il arrive à le convaincre dans un premier temps. Et ensuite vient une histoire où c'est Michal, sa femme, donc vous vous souvenez qu'elle a épousé Michal au chapitre 18 avec les 100 prépuces des Philistins, vous vous souvenez. Et donc là, maintenant, suite à cet attentat qui n'a pas marché, Saül envoyait des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir le lendemain matin. C'est-à-dire, donc, il se pose devant la maison, et puis le matin, ils sont censés entrer dans la maison. Michal, femme de David, l'en informa et lui dit « Si tu ne sauves pas ta vie cette nuit, demain tu seras mis à mort. » Michal fit descendre David par la fenêtre. Ça vous rappelle quelque chose ? Non ? Voilà, Jéricho, c'est Rahab, n'est-ce pas ? Et après, dans le Nouveau Testament, on va reprendre ça avec l'apôtre Paul à Damas, mais ça, c'est qu'une simple reprise, comme d'ailleurs presque tout le Nouveau Testament n'est qu'une reprise de l'Ancien, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, Michal fit descendre David par la fenêtre, il prit la fuite et fut sauvé. Michal prit alors le teraphim, le plaça sur le lit et du filet en poil de chèvre, elle fit le chevet et mit dessus une couverture. Saül envoya des émissaires pour arrêter David. Elle dit, il est malade. Et Saül envoya encore des émissaires pour voir David. Il leur dit, apportez-moi dans son lit pour le faire mourir. Les émissaires entrèrent. Le teraphim était sur le lit avec le filet en poil de chèvre à son chevet. Et Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé ainsi ? Tu as laissé partir mon ennemi et il s'est sauvé. Michal dit à Saül, c'est lui qui m'a dit, laisse-moi partir, pourquoi devrais-je te faire mourir ? Voilà, donc là c'est Michal qui prend parti pour David, et puis si vous regardez la structure, elle est un peu en chiasme, ça commence avec l'idée que Saül veut faire mourir, et Michal invente, puisque ce n'est pas dit dans le texte, que David l'aura menacé en fait de la faire mourir s'il ne la laisse pas échapper. Mais ça, ce n'est pas du tout dit dans le texte, hein, donc c'est une manière, en fait, de se dédouaner par rapport à son père, probablement. Hein. Et ensuite, vous avez, en bleu, au début, « Si tu ne sauves pas ta vie, il ferait la fuite vous sauver », et « Il s'est sauvé », donc même racine. Ensuite, on trouve deux fois le teraphim et les deux émissaires qui viennent au milieu. Alors, donc, comme l'a déjà vu, cet épisode d'abord met en parallèle Michal avec Jonathan dans le sens que c'est les deux enfants de Saül qui, en fait, vont se mettre du côté de David. Mais il y a aussi, évidemment, un lien, comme on l'a vu, avec Rahab dans l'histoire de Josué. Donc, on peut imaginer que vous avez une maison comme sur cette image, avec une fenêtre, une ouverture qui donne soit à l'extérieur de la ville ou dans une ruelle qui n'est pas gardée par les émissaires de Saül. Alors, pourquoi ça se passe la nuit ? Certains ont voulu voir une allusion à début, certains pensent que ça aurait été la nuit des noces, mais ça, c'est pas dit. Ce qui a des histoires, la nuit de noces est toujours compliqué et dangereux, mais je pense que c'est un peu une surinterprétation. Je pense que simplement, il y a une allusion, j'imagine, à l'histoire de Josué 2, avec la différence que Rahab va cacher les espions et prétend qu'ils sont partis, alors que Michal fait partir David et prétend qu'il est là, en déguisant le teraphim comme si c'était David. Alors c'est quoi un teraphim? Voilà, alors normalement c'est un pluriel, ici c'est utilisé comme un singulier, on le trouve 15 fois dans la Bible, dans la Bible hébraïque, toujours au pluriel, mais ici teraphim est utilisé en singulier. Donc on ne sait pas, il y a une discussion sur l'étymologie, est-ce qu'il y a un lien avec le hittite Tarpish, qui sera une sorte d'esprit ou un démon, ou plus probablement, il me semble, avec la racine Rapha qu'on trouve aussi à Ougarit avec les ancêtres divinisés, les Rapiuma, et c'est probablement le cas. Alors on peut imaginer ce teraphim un peu comme les statuettes égyptiennes comme qu'on appelle les Chaptis ou les Ushtbis, mais c'est en effet des serviteurs un peu virtuels qu'on donne aux personnes de statut importante pour les enterrer. Donc je pense que c'est pas tout à fait comparable. Il s'agit plutôt des statuettes qui symbolise d'une manière ou d'une autre les ancêtres défunts. C'est probablement ça le cas, apparemment avec des tailles différentes, parce que il y a un texte que vous connaissez peut-être, en Genèse 31, quand Jacob avec ses femmes se sépare de Laban, Rachel aussi va voler les teraphim de son père, elle va s'asseoir dessus. Hein. Et donc là, c'est plus petit, probablement. Ici, le fait que Michal déguise le teraphim comme si c'était le David malade, donc ça imagine quand même c'est une statue un peu plus importante. Et ce qui est intéressant, dans certains textes, ces teraphim sont en effet en lien avec de la divination. Hein. Je vous cite ce texte de Zacharie, « Les paroles des teraphim sont malfaisantes, les divins ont des visions mensongères. » Donc apparemment, et puis gardez ça en tête, puisqu'on va parler après de Saül, la nécromancienne. Et là, il y a quelque chose qu'on peut sans doute lier d'une manière ou d'une autre. Donc on peut se poser la question, si c'est un récit un peu récent, si nous n'avons pas affaire à une sorte de critique aussi des teraphim, parce qu'on les traite un peu de manière peu respectueuse. En Genèse 31, Rachel s'assoit dessus, disons, sur le chameau. Et puis, ici, on en fait une sorte de déguisement pour simuler le David malade. Donc, ça montre en effet qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour ces teraphim. Donc, ça pourrait indiquer que c'est en effet un texte qui veut se moquer un peu de ces statues. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à sa réaction vis-à-vis de Jonathan, dans le chapitre suivant, où Saül va se fâcher parce que Jonathan va trouver un autre subterfuge, ici, il n'y a aucune réaction de Saül. Le rédacteur, en fait, ne porte pas de commentaire de Saül par rapport au subterfuge de sa fille. Voilà. Et après, avant le chapitre 20, il y a un épisode encore très bizarre, où on a pour la première fois, en fait, le triangle David, Saül et Samuel. Ça doit vous étonner aussi un tout petit peu. Pourquoi? Bon, je vais vous le lire et puis vous réfléchissez. David avait pris la fuite et s'était sauvé. Il arriva chez Samuel à Rama, il l'informa de tout ce qu'il avait fait Saül. Lui et Samuel allèrent habiter à Naïot ou à Navid. On vient de dire à Saül, voici que David est au Naïot de Rama. Saül envoya des messagers pour s'emparer de David. Ils virent le groupe des prophètes en train de prophétiser ou d'être en transe et Samuel debout à leur tête. Un esprit de Dieu, à nouveau, hein, un esprit de Dieu vint sur les messagers de Saül. Ils entrèrent en transe où ils se mirent à prophétiser. eux aussi. On le rapporta à Saül et il envoya d'autres messagers. Ils entrèrent en transe, eux aussi se mirent à prophétiser. Saül envoya un troisième groupe de messagers. Ils entrèrent en transe et ils se mirent à prophétiser, eux aussi. Il partait lui-même pour Rama. Il parvint à la grande citerne qui se trouve à ses coups. Il demanda où sont Samuel et David. On lui dit au Naïot de Rama. Il se rendit là-bas au Naïot de Rama. Un esprit de Dieu vint sur lui aussi. Il s'en alla en état de transe ou en prophétisant jusqu'à son arrivée au Naïot de Rama. Il se dépouilla de ses vêtements. Il fut en transe où il prophétisa lui aussi devant Samuel. Il tomba nu et resta ainsi toute la journée et toute la nuit. C'est pourquoi on dit « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Et David prit la fuite de Naïot de Rama. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On avait déjà vu, en fait, cette rencontre de Saül et des prophètes avec ce proverbe ou cet adage « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Hein, vous vous souvenez? Ici, le texte est assez curieux, puisque on avait dit au chapitre 15 que Samuel ne revit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Donc là, quelqu'un a soit oublié ou pensé que c'était suffisamment important quand même de le faire réapparaître. Et donc, il faut se poser la question de la date et des fonctions de cet ajout. Première chose qu'on peut dire, que Saül apparaît là vraiment presque comme le roi perse qui a en fait toute une organisation de renseignement. Il a des émissaires suffisamment nombreux qu'il peut en envoyer trois, un peu comme ses agents secrets, donc ça fait plutôt penser au roi perse. C'est le seul texte, comme je vous ai dit, qui présente en fait Saül, David et Samuel ensemble. Hein? Et autre particularité, nulle part ailleurs, il est dit que Samuel est le chef d'un groupe de prophètes. Hein? Samuel est toujours seul. Tout d'un coup, il est entouré d'un groupe de prophètes. Et ça, ça fait penser à des prophètes comme Élie ou Élisée, qui sont apparemment des patrons en fait, d'un groupe de prophètes qui habitent ensemble. Et apparemment, on veut présenter Samuel comme un peu le premier de ce type de prophète. Donc, probablement, un texte qui vient du début de l'époque perse. Ce n'est pas un texte deutéronomiste, parce que les textes sur Élie, Élisée ont été insérés dans l'histoire deutéronomiste plus tard. C'est peut-être, en effet, déjà pour préparer l'apparition de ces prophètes dans les livres des rois. Et ce qu'on peut également encore observer, cet adage qui apparemment, c'était quand même un adage qui circulait. Saül est-il parmi les prophètes? Parce qu'on le trouve trois fois. Donc ce n'est pas un rédacteur qui l'a inventé. Donc apparemment, il y avait une tradition sur Saül est-il parmi les prophètes? Donc apparemment, c'est quelqu'un qui... Voilà, on se posait, je vous ai déjà dit, on se posait toutes sortes de questions, quels problèmes il pouvait avoir, de l'épilepsie ou d'autres, mais ça, peut-être, il faut être prudent avec des telles spéculations. Mais il y avait quelque chose autour de ça. Et au début, c'est présenté comme un signe. Donc la première fois, souvenez-vous, on l'a vu quand Saül était, en effet, consacré roi en secret par Samuel. Et là, c'était un des signes qui devait arriver. Donc là, c'était positif. Et ici, on a l'impression, on le tourne un peu au contraire. D'abord, Saül va à Rama, ou David va aussi. Ce n'est pas très logique non plus que David va à Rama, parce qu'il devait plutôt aller chez lui, à Bethléem. Mais ce qui est important surtout, c'est que là, il y a un rédacteur qui voulait que les trois figures se rencontrent d'une certaine manière et que d'une certaine manière, c'est une dernière légitimation encore pour dire que l'esprit est passé de Saül à David. Donc là, on voit que l'extase est également provoquée de nouveau par l'esprit. Elle est même contagieuse, puisque les émissaires de Saül qui tombent sur ce groupe de prophètes, c'est pas seulement Saül, c'est tous les émissaires qui se comportent en transe, qui se comportent comme des prophètes. Hein, donc, faut vous imaginer un peu le scénario. L'idée, c'est de préparer ce proverbe sur Saül. Alors, Caco et Robert, dans leurs commentaires, ils disent « Cette séance prophétique ressemble un peu à une danse de derviche, où on aurait en fait le maître qui se tient d'une manière immobile et les autres dansent autour. » C'est pas vraiment dit. Mais il n'est pas non plus dit que Samuel était en extase. Donc, c'est le groupe des prophètes qui tombe en extase. Donc, c'est peut-être une comparaison à prendre avec prudence. Mais, en effet, l'idée, c'est que Saül, en effet, est au centre de l'intérêt. D'ailleurs, il demande « Vayashal Shaul », donc un jeu de mots qui est souvent utilisé, puisque c'est la même racine. Saül demande Samuel et tombe en transe. Ensuite, cette transe, en fait, amène Saül à se dénuder. Et donc là, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on insiste sur cette idée ? Donc, si je vous fais la comparaison entre la première fois au chapitre 10, où Saül tombe en transe, et la dernière fois ici en 1 Samuel 19, ben, vous voyez, la différence, en fait, c'est qu'il tombe à nu, il resta ainsi toute la journée. Donc ça, ce n'est pas dit dans le premier récit. Donc là, il y a quelque chose sur lequel on veut insister. Et pourquoi on insiste sur le fait que Saül se trouve tout nu ? Bon, il n'y a pas fait apparemment des prophètes qui se promènent tout nus. Il y a un texte dans une lettre à Simrilim, le roi de Marie, où en fait il est question d'un prophète, ou on dit un mouhou, de Dagan, qui en fait apparemment est nu, c'est sous-entendu, parce que c'est lui qui écrit au roi, dit « j'ai dû le vêtir ». Donc, s'il a dû le vêtir, c'est qu'apparemment, il n'était pas vêtu. Et dans l'histoire d'Ésaïe 20, le prophète Ésaïe lui-même reçoit l'ordre de se promener tout nu pour symboliser, en fait, le destin qui attendra l'Égypte et l'Éthiopie, qui seront eux aussi amenés en captivité tout nus. Donc, mais ça, c'est des moments exceptionnels. On peut encore penser, et on y parlera d'ici une ou deux semaines, de David qui va danser de manière dénudée aussi devant l'arche, où on retrouve en fait ce motif. Ici, c'est plutôt, il me semble, quand même une manière négative de parler de Saül, parce que se dénuder, ben c'est aussi de se séparer de ses vêtements royaux. Et ça, c'est un sujet qui va revenir aussi. Je vous l'ai dit déjà, quand Saül va se rendre chez la nécromancienne à Endor, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, il ne va pas se dénuder, mais il va se déguiser, il va changer de vêtements. Hein. Donc ça veut dire aussi qu'en fait, il renonce d'une certaine manière à ses vêtements royaux, parce que les vêtements, évidemment, dans l'Antiquité, c'est un statut social encore plus important qu'aujourd'hui, même qu'aujourd'hui, ça continue à l'être d'une certaine manière. Mais c'est l'élément central ici. Et donc, peut-être c'est aussi un thème qui rappelle d'une certaine manière 1 Samuel 18, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1 Samuel 18, c'était en fait Jonathan qui lui-même, mais sans esprit quelconque, s'était en effet dénudé pour donner ses vêtements et ses armes à David. Hein ? Donc là, c'est aussi une manière symbolique de dire en fait qu'il remet en fait son statut de futur roi à David. Et ici, en fait, Saül, ça lui arrive sans qu'il peut contrôler la situation. Alors que pour Jonathan à 1 Samuel 18, c'était quelque chose de voulu. Alors maintenant, nous allons arriver à une histoire un peu longue et compliquée. C'est difficile à 2h de l'après-midi, donc je ne vais peut-être pas tout vous le lire, mais c'est une histoire en fait qui est un peu longue, qui est un peu répétitif et qui est entièrement concentré sur la relation entre David et Jonathan. Hein? Donc ça, c'est vraiment le cœur des récits qui nous parlent de l'amitié de Jonathan et David, avec des détails qui ne sont pas toujours faciles, si je vous les explique tous, d'ailleurs, certains que je ne peux pas vous expliquer, donc ce sera un peu trop long. Mais on verra au fur et à mesure. C'est une histoire assez baroque, répétitif, parce qu'on reprend beaucoup de choses, deux, trois fois. On prévoit quelque chose, après on raconte que ça s'est arrivé. Ça fait penser un peu, dans la Genèse, à l'histoire du serviteur d'Abraham qui est envoyé chercher une femme pour Isaac. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. C'est la plus longue, en fait, de la Genèse, où le serviteur fait une prière en disant « si cela arrive, et si cela arrive encore, et si ça arrive, et après on va raconter, et ça arrivait, et ça arrivait, et ça arrivait, parfois avec des petites différences, mais c'est un peu ce style-là que nous avons. » Donc, je vous donne juste un exemple. Les deux amis, en fait, disent « il faut tester Saül pour savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que bon, je vous expliquerai. Donc David s'inquiète de nouveau que Saül lui veut faire du mal, et on se dit bon, tu vas être absent lors de la fête de la nouvelle lune, et on verra comment Saül va réagir. Et ils mettent en place tout un stratagème, et c'est annoncé d'abord dans la première partie, après c'est repris par Jonathan. Et c'est raconté encore une fois par le narrateur. Donc ça donne un peu l'impression, c'est un peu lourd et un peu baroque. Hein. Et donc c'est peut-être aussi une indication que c'est peut-être encore un autre auteur, parce que c'est un style assez particulier par rapport aux autres récits qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus nerveux d'une certaine manière. Ici on est un peu dans la longueur. Donc la structure est la suivante. D'abord on se trouve, on ne dit pas trop, mais on se trouve apparemment dans la maison de Saül ou à Gibéa, quelque part, et où c'est David et Jonathan qui se retrouvent et qui s'inquiètent en effet des intentions de Saül. Ensuite, on est dans la campagne, les deux amis vont à la campagne, concluent encore une fois une alliance et en fait se mettent d'accord sur un signe pour que Jonathan puisse avertir David des intentions de Saül. Après, on se retrouve dans la maison de Saül, avec Saül, Avner qui ne joue aucun rôle mais qui est mentionné ici, donc le général, et Jonathan. Et Saül découvre que Jonathan protège David, se met très en colère, donc un texte important. Et puis, on se retrouve encore une fois dans la campagne avec d'abord le signe des flèches, dont je vais vous parler dans un instant, et ensuite la séparation de David et Jonathan, qui donne l'impression que c'est la dernière fois que les deux amis se voient. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais ça fait partie aussi de la complexité rédactionnelle du récit. Donc, je ne vais pas vous lire tout le récit, parce qu'il est long. Vous avez tous des Bibles à la maison ou ici, donc vous regardez. L'idée, c'est d'abord que maintenant, c'est David qui s'inquiète des intentions de Saül et puis demande en fait à Jonathan de lui être le royal. Et puis, il propose en fait un stratagème. Demain, c'est la nouvelle lune, au verset 5. Moi, je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Mais tu me laisseras partir, je me cacherai dans la campagne, trois fois ou au troisième, ce n'est pas tout à fait clair. Et si ton père remarque mon absence, tu lui diras, David m'a demandé d'aller rapidement à Bethléem, car il y a le sacrifice annuel pour le clan. Et si Saül dit, c'est bien, tout va bien pour ton serviteur. Mais s'il se met en colère, alors c'est mauvais signe. Donc ça, c'est le stratagème du début. Et ensuite, en fait, on verra, c'est repris par Jonathan. Donc ici, au début, c'est David qui prend l'initiative et qui envisage la possibilité que Saül veuille le tuer. Une histoire où Jonathan ne semble pas être trop au courant des autres attentats de Saül contre David. Donc, il ne semble pas connaître l'histoire de David sauvé par Michal. C'est un très long discours. Il y a un article de Yaron Pelec qui pense, mais c'est peut-être un peu... Oui, je ne sais pas, bah, vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, c'est un long discours qui est marqué avec beaucoup d'infinitifs absolus. C'est une manière, en hébreu aussi, parfois, en effet, de renforcer un côté urgent, émotif. Donc, ce n'est pas des verbes, donc c'est un peu nerveux comme ça, quand vous n'avez que des infinitifs absolus. Et Yaron Pelec, il pense que David fait de la manipulation émotionnelle. Par rapport à Jonathan, qui serait un peu typique des discours des femmes comme Abigail ou Esther, qui se présentent en fait comme inférieures et faibles afin de mieux pouvoir manipuler leur supérieur masculin. Je ne sais pas si ça marche toujours. Mais donc l'idée en fait de Peleg, c'est de dire en fait que David se présente ici, ou disons prend un peu ici une rôle de femme en disant « moi je suis sous tes ordres, mais fais ceci, fais cela ». De toute façon, ça va marcher, puisque dans la deuxième scène, qui est dans la campagne, Jonathan va en effet adopter cette stratégie. Donc, mais d'abord, il est question de la fête de la nouvelle lune, donc fête mensuelle, et c'est une fête apparemment bien attestée dans la Bible, ça peut se passer au sanctuaire. Nombre 28, un texte récent, donne une liste de sacrifices pour cette fête, ce qui montre que ce n'est pas simplement une coutume ancienne. Certains pensent qu'à l'origine, le fait de la nouvelle lune et le Shabbat, c'était la même chose. Parce que en Amos chapitre 8, vous avez une mise en parallèle. Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée ? Afin que nous puissions vendre du blé, donc apparemment la nouvelle lune ne fait pas de commerce, quand finira le Shabbat, afin que nous puissions ouvrir le grenier. Donc certains pensent qu'en effet, à l'origine, c'était la même chose, et puis le Shabbat est devenu une fête différente de la fête de la nouvelle lune. Donc cette fête a probablement duré 2 jours, ce qui explique cette idée du troisième jour, disons, on commence la veille de la fête, et David veut être absent 3 jours, veut rester caché 3 jours, et donc c'est ce qui va en effet se mettre en place ensuite. Et dans la stratégie, c'est en effet de dire que David a dû aller rapidement à Bethléem pour une fête annuelle, ce qui est appelé en hébreu un Tsevach Hayamim, un sacrifice de jour, un sacrifice annuel, qui apparaît, alors ça c'est intéressant, qui apparaît plusieurs fois dans le livre de Samuel, mais pas dans les textes de la Torah. Donc cette fête annuelle, alors soit c'est les rédacteurs de Samuel qui l'ont inventé, mais c'est un peu étonnant, ou c'est quelque chose qu'on n'a pas considéré comme étant suffisamment constitutif ensuite, et apparemment c'était en fait célébré par chaque clan à sa manière. Donc maintenant, en effet, le verset 8 qui dit « agis avec loyauté à l'égard de ton serviteur, puisque c'est dans une alliance de Yahvé que tu m'as fait entrer », d'ailleurs, si je suis coupable en quoi que ce soit, fais-moi mourir toi-même, pourquoi me feras-tu venir devant ton père ? Donc ça, évidemment, cette alliance, bah, ça fait allusion à la première alliance qu'ils ont conclue au chapitre 18, et c'est pour cela, c'est possible, si c'est un texte plus ancien, que ce verset 8 a été ajouté pour faire le lien avec le chapitre 18. Ensuite, donc, les deux amis vont se rendre à la campagne. Donc, viens, sortons à la campagne. Ils sortiront donc tous les deux dans la campagne. Donc, là aussi, je ne vais pas vous lire l'ensemble de ce texte. Comme je vous ai dit, Jonathan va prendre, en fait, pour lui, le stratagème que David lui avait proposé, en disant, il y a un signe, en fait, qu'il va mettre en place. Il ira après à la campagne avec son valet. Il tirera des flèches, et puis selon ce qu'il dira au valet, les flèches sont plus loin ou ils sont derrière toi. Bah, c'est un signe, en effet, pour que David sache ce qui s'est passé. C'est pas hyper logique non plus, l'affaire, parce que, bon, il aura pu aussi lui dire tout simplement. Ce qui est écrit ici en italique, n'est-ce pas, tant que je reste en vie, tu devras agir envers moi avec loyauté de Yahvé, et si je meurs, n'est-ce pas, tu devras jamais retirer à ma maison ta loyauté, etc. Maintenant, c'est en effet Jonathan qui demande la loyauté à David et qui prévoit déjà, en fait, qu'il va mourir. Donc, c'est probablement un ajout qui, en fait, annonce déjà la mort de Jonathan. Et au verset 17, c'est un terme clé, un verset clé, « Jonathan fit encore prêter serment à David dans son amour pour lui. Oui, il l'aimait comme lui-même. » Donc, en fait, en hébreu, c'est trois fois la racine « ahav », donc dans son amour, il l'aimait avec l'amour de son âme, littéralement. Donc, les deux amis vont à la campagne, qui est un endroit idéal pour toutes sortes de choses, conspirations et d'autres, qui doivent rester secrètes. On est moins surveillé à la campagne. Et donc, il y a cet article de Sylvia Schreuer et Thomas Stäubli, que je voudrais citer, qui disent en effet, la campagne, c'est aussi le lieu privilégié des amoureux. Dans le Cantique des Cantiques, les amoureux vont se retrouver à la campagne, vont quitter la ville pour aller à la campagne, et donc suggèrent dans leur article que c'est aussi cette connotation qui est sous-entendue. C'est difficile vraiment parce que la campagne est un lieu où se passe beaucoup de choses, ça c'est vrai, mais donc ce qui est quand même important, c'est le verset 17 dont je vous ai déjà parlé. Et donc, il y a à la fois la question, et c'est souvent le problème avec l'histoire de David et Jonathan, vous avez à la fois une question de loyauté, une question politique aussi, et vous avez des connotations érotiques. Vous avez un peu les deux choses qui sont toujours un peu combinées. Et donc, l'alternative, l'un ou l'autre, est peut-être trop forcée. Donc... Maintenant, comme je vous ai dit, on invite David, c'est lui qui avait demandé la loyauté, maintenant c'est Jonathan qui demande la loyauté. Donc l'idée c'est qu'on prépare un signe avec des flèches, et ça c'est intéressant parce que les flèches peuvent aussi servir à des divinations. Donc il y a deux textes dans la Bible que je vous ai marqués, 2 Rois 13 et Ézéchiel 21, selon où les flèches vont se mettre, ça signifie ceci et cela. Donc il y a peut-être une reprise de cette idée qu'il y a un lien entre tirer les flèches et la divination. Alors maintenant arrive la scène centrale presque de l'histoire, c'est que Saül se rend compte du subterfuge. Donc là peut-être je vais vous le lire. « La nouvelle lune arrive et le roi s'assit à table pour manger. » Le roi s'assit sur son siège, comme les autres fois, sur le siège contre le mur. Il se plaça face à Jonathan. Alors, dans le texte masorétique, on dit, pardon, Jonathan se leva, ce qui n'est pas très logique parce que Jonathan va se lever tout à la fin. C'est peut-être une erreur. Donc, Avner s'était assis à côté de Saül. La place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car il se disait, c'est un accident, il n'est pas pur. C'est certain, premier jour. Or, le lendemain de la nouvelle lune, le second jour, la place de David resta vide. Donc, vous voyez, on répète. Saül dit à son fils Jonathan, « Pourquoi le fils de Jessé n'est-il pas venu au repas, ni hier, ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé pour aller jusqu'à Bethléem. Il m'a dit, « Laisse-moi partir, je t'en prie, car nous avons un sacrifice de famille dans la ville. » Donc, si tu m'es favorable, permets-moi de m'échapper pour aller voir mes frères. C'est pourquoi elle n'est pas venue à la table du roi. Saül se met en colère contre Jonathan et lui dit, alors ça, c'est une expression qui va nous occuper un petit moment, fils d'une dévoyée ou fils d'une chienne, traduit certains, je sais bien que tu prends parti pour le fils de Jessé, pour ta honte et pour la honte du sexe de ta mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah. Car aussi longtemps que le fils de Jessé vivra sur la terre, tu ne tiendras pas et la royauté et ta royauté non plus. Maintenant, on va l'arrêter pour moi, car il mérite la mort. Jonathan répondait à son père. Saül lui dit, pourquoi serait-il mis à mort? Qu'a-t-il fait? Saül jeta la lance contre lui pour le frapper. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Il l'avait fait deux fois avec David, là maintenant c'est contre son propre fils. Et Jonathan sut alors que cette chose décidée de la part de son père de mettre à mort David. Jonathan se leva de table, très en colère. Il ne mangea rien ce second jour de la nouvelle lune, car il avait de la peine au sujet de David, car son père l'avait insulté. Voilà. Donc, on va regarder d'abord l'ordre de table. Donc, vous avez au mur, contre le mur, Saül, qui regarde un peu ce qui se passe, à côté de lui, Avner. L'autre côté, probablement David. En face, probablement Jonathan. Les autres invités, on n'en parle pas. Et donc, l'absence de David au premier jour, bah, comme les amis l'ont prévu, ce n'est pas très dramatique parce qu'ils s'imaginent que c'est une impureté. Hein. Alors, il y a de nouvelles raisons. On peut avoir un rapport sexuel, on peut avoir une éjaculation nocturne, on peut être en contact avec un mort. Et dans tous ces cas, en suivant le Lévitique, bah, il faut se mettre en quarantaine pendant une journée et puis après, bah, on revient. Donc le premier jour, c'était l'idée que Saül ne devait pas trop s'inquiéter. Alors le deuxième jour de la fête, Saül se rend compte de l'absence de David, que c'est autre chose. Et donc le mensonge de Jonathan, qui dit il est parti à Bethléem, réussit pas à le calmer. Et donc du coup, il y a cette insulte, fils d'une dévoyée, difficile à traduire. Et donc, il désigne en fait la mère de Jonathan comme une femme perverse et rebelle. Et ça, c'est une question déjà, pourquoi se prendre à la femme, à sa femme, normalement, ou à la mère de Jonathan. Donc, on tue sexe de ta mère, Ervat Imcha. Ben, c'est bien, Ervat, c'est en fait les organes sexuels masculins ou féminins. Et on le trouve souvent dans le Lévitique, dans les chapitres 18, 20, où les questions de Gala Erva, donc découvrir le sexe de quelqu'un. Et l'idée, c'est souvent des rapports sexuels illicites. Mais donc, du coup, comment il faut expliquer cette insulte ? Est-ce que vous avez des idées ? C'est pas évident. Alors, il y a des gens qui disent « Saül reprocherait à Jonathan de ne pas se comporter en digne héritier du trône. Bon. » Mais du coup, pourquoi Saül, du coup, va-t-il parler de la mère de Jonathan et non de son fils au début ? Fils d'une dévoyée, c'est quand même compliqué. Ou alors, Saül reproche à son fils une relation homosexuelle et le traite d'efféminé, comme quelqu'un qui se comporte à la manière d'un individu du sexe opposé, déshonorant par là même sa propre mère. Mais si c'était ça aussi, la question toujours reste, pourquoi en fait s'en prendre à la mère de Jonathan ? On peut aussi encore imaginer une autre explication, à savoir que le sexe de la mère de Jonathan aurait été rendu impur puisqu'elle a enfanté un fils comme Jonathan. Mais on a toujours la même question, bah, ce ne sera pas tellement la faute de la mère. Donc la question est compliquée. Alors, il y a peut-être une piste qui était explorée par Rashi, commentateur juif du Moyen-Âge, qui ne suivit pas d'autres. Ça, c'est un peu la psychologie. Mais bon, alors Rashi dit, en fait, un homme qui a un fils qui lui déplaît profondément, il va commencer à avoir des doutes sur le fait qu'il soit vraiment son père. Ce qui expliquerait la malédiction de la femme qu'il soupçonne alors d'avoir couché avec quelqu'un d'autre. Donc il a dit, bah, si j'ai un fils comme ça, je ne peux pas être le père. Et donc du coup, on va traiter la femme aussi comme étant dévoyée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble une piste au moins. Parce que ce qui reste quand même étonnant, c'est pourquoi se prendre en fait à la mère de Jonathan. Hein? Donc, dans toutes les façons, l'insulte est grave. Jonathan quitte la table, blessé en colère. Et Ce qui est intéressant aussi, que Jonathan a insulté Jonathan et sa mère, et à la fin, on dit qu'il a insulté David. Donc, comme dit Graham Hall, c'est une manière aussi de rapprocher les deux amis. On les rapproche aussi avec l'idée, comme on l'a vu tout à l'heure, que Saül avait jeté sa lance, en fait, contre Jonathan. Bon, pour ceux qui font un peu ce qu'on appelle aujourd'hui du queer reading, donc lecture à partir d'une situation gay, ils disent, en fait, la colère de Saül, c'est la colère d'un père qui découvre que son fils est homosexuel. Bon, ça c'est peut-être un peu trop moderne, mais c'est une sorte de réception, d'appropriation. Je pense pas forcément que dans la tête du rédacteur, c'était déjà l'idée. Donc je pense qu'il faut plutôt aller, à mon avis, avec Rachi. Et donc, les deux amis vont faire leurs adieux, donc ils se retrouvent dans la campagne, dans les champs. Jonathan, avec son valet, tire les flèches et lui dit « Voilà, tu vas dans telle ou telle direction. » Et puis, en fait, le garçon ne sait rien, mais Jonathan et David savaient. Jonathan donne à ses armes à son garçon et lui dit « Va reporter à la ville. » David se leva à partir et Jonathan rentre en ville. Donc, il y a certaines personnes qui pensent que la deuxième partie où il y a en fait la scène la plus émotive entre les deux amis, que ça aurait été ajouté. Parce que vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez lire, comme le dit Walter Dietrich, simplement une sorte de séparation muet. Il jette, il tire les flèches, il dit à son valet, ils sont là, et David sait ce que ça signifie. Mais du coup, on perd toute la scène des adieux. Alors, théoriquement, c'est possible. Si on veut un récit ancien, plus sobre, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas vraiment de raison pour enlever ces versets. Donc, il y a beaucoup, en effet, d'émotions dans cette fin. Et en effet, ils s'embrassèrent l'un à l'autre, ils pleurèrent ensemble jusqu'à ce que David eût pris le déçu, on verra. Et donc, les deux se séparent. Alors, il y a cette histoire des larmes et des embrassades avec un problème un peu de traduction. Ils s'embrassèrent, ça va, l'un et l'autre pleurèrent ensemble jusqu'à ce que David eût pris le déçu. Eût rendu grande. Donc, Darby traduit jusqu'à ce que les pleurs de David deviennent excessifs. La Septante traduit jusqu'à ce qu'un grand accomplissement. Il y a un auteur, M. Nardelli, qui a pensé que ça pourrait faire allusion jusqu'à ce que David a eu une érection. Mais ça, c'est peut-être un peu exagéré, puisque dans toute l'histoire, il n'y a jamais une allusion aussi directe. Donc je pense là, c'est peut-être un peu du trop wishful thinking de certains. Donc je pense qu'il ne faut pas suivre cette idée. Il est cependant à noter, et ça c'est intéressant, qu'il y a beaucoup de commentateurs qui en fait sont gênés par cette scène. Et là, il faut se poser la question, pourquoi on est gêné par cette scène? Ça c'est une autre question. Et contrairement, aujourd'hui ça a un peu changé, mais souvent quand vous lisez les commentaires sur Samuel, on va vous dire l'histoire de David et de Jonathan, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, ça n'a rien à voir avec l'homoérotisme, comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas être. Si vous regardez la réception dans l'histoire de l'art, je vous ai mis juste deux exemples. C'est quand même très tendre, non? C'est pas simplement des amitiés viriles, là. Donc c'est autre chose. Donc on a en effet quand même pu aussi sentir différemment que simplement une histoire de deux bons amis. Donc il y a quelque chose d'un peu de plus. Alors, l'histoire n'est pas encore tout à fait terminée, puisque je vais aller un peu vite. Il y a encore un texte assez bref qui parle d'une dernière rencontre entre Jonathan et David. Donc, il y a toute Pour ceux qui aiment la géographie, c'est magnifique ces chapitres-là, parce que David se déplace constamment dans le désert, on ne sait jamais exactement où il est, et puis Saül essaie de l'attraper, et curieusement, Jonathan sait facilement où il se trouve, donc il vient le voir ici à Horesh, dans le désert de Tzif, et lors de cette rencontre, en fait, il est dit, Jonathan, fils de Saül, se met en route à la trouver David à Horesha. Il encoura David au nom de Dieu. Il lui dit, n'aie pas peur, la main de mon père Saül ne t'attendra pas. C'est toi qui régneras sur Israël, moi je serai ton second. Même Saül, mon père, le sait bien. Ils conclurent tous les deux une alliance devant David, devant Yahvé, pardon. David demeure à Horesha et Jonathan s'en alla chez lui. Donc, c'est un ajout sans doute qui renforce encore une fois l'idée que Jonathan reconnaît que la royauté passe par David. Ce qui est intéressant aussi, que Jonathan dit qu'il sera le second. Ça, c'est quelque chose de nouveau, le second de David. Hein? Et apparemment, c'est un titre qu'on trouve dans le livre d'Esther, où c'est le représentant du roi ou le vice-roi, et dans les chroniques, où on a l'impression qu'il s'agit d'un titre officiel, Mishne HaMelech, le second du roi. Ben, si vous prenez les livres Esther et Chronique, bon, on est quand même là plutôt à l'époque hellénistique, donc c'est certainement un ajout assez récent qui est fait et qui reprend encore une fois l'histoire de l'alliance de 18-3, donc vous vous souvenez, Jonathan fit une alliance avec David, avec en effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une grammaire un peu compliquée, parce qu'on a Vayikrot Yehonatan veut David Berit. Donc normalement, ça devrait être Et. Et là, le texte en fait va corriger en disant, en fait, ils conclurent tous les deux, parce que normalement, une alliance, un traité, un pacte, c'est imposé par un supérieur à un inférieur. Et là, en fait, on veut insister sur l'idée que c'est les deux qui sont au même niveau, même si Jonathan dit qu'il est second, hein, puisqu'il est dit « Vayikretu shenehem berit ». Donc les deux, eux deux, ensemble, concluent cette alliance. Donc ça, c'est vraiment la dernière fois où on trouve David et Jonathan. Et ensuite, David va encore parler de Jonathan, mais c'est après sa mort. La mort de Saül et de ses fils est racontée en 1 Samuel 31. On retrouve du coup la guerre contre les Philistins. Et donc on apprend que d'abord les fils de Saül sont tués et Saül se tue lui-même. Puisqu'il est blessé, il demande à son écuyer de le tuer, et l'écuyer refuse, et donc Saül prend l'épée et il se jette sur son épée. Alors, c'est intéressant, si on fait de l'intertextualité, parce que tout au début de l'histoire, David arriva à la cour à la fois comme musicien, mais aussi comme écuyer de Saül. Donc il aura pu être à la place de cet écuyer, ce qui évidemment n'est pas le cas, mais il est quand même aussi lié à l'armée des Philistins. Mais ça, on va le voir un peu plus tard, la semaine prochaine. Et donc David apprend la mort de Saül et de Jonathan. Donc en fait, la coupure entre les deux, livres de Samuel, qui est une coupure tardive, il est fait avec la mort de Saül et de Jonathan, la mort de Saül et de ses fils. Ça conclut en fait la première partie. Et le deuxième livre de Samuel, en fait, va s'ouvrir avec l'histoire après. Donc David qui devient maintenant, il a la voie libre, presque la voie libre, parce qu'il y a un descendant de Saül. Mais donc le deuxième livre commence avec, en effet, l'apprentissage de la mort de Saül et de Jonathan par David. Et là, c'est un texte aussi très, très curieux, puisque d'abord, il y a simplement un homme qui arrive, qui lui dit que voilà, ils sont morts. Et puis, tout d'un coup, il y a tout un texte où le Ish devient un Nahar, un jeune homme, Et le jeune homme dit, bah, j'étais là, en plus, le jeune homme, c'est un Amalécite. Vous vous souvenez des Amalécites? C'est un Amalécite, et voilà, il m'a dit, qui est dû, j'ai dit, je suis un Amalécite, il m'a dit, tiens-toi près de moi et donne-moi la mort, car je suis pris de malaise, bien que j'ai encore tout mon souffle. Je me suis tenu près de lui, je lui donnais la mort, parce que je savais qu'il ne vivrait pas après sa chute, et voilà, j'ai pris le diadème qu'il avait sur sa tête. On n'a jamais entendu parler d'un diadème de Saül sur sa tête, donc on voit aussi que, voilà, on est là aussi dans des ajouts, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. Et David est très en colère, il le fait tuer, c'est Amalécite. Mais ça, c'est clairement un ajout, puisque vous pouvez lire le récit ancien, qui, en fait, raconte tout simplement l'arrivée d'un rescapé auprès de David, qui l'annonce, en fait, que Saül et ses fils sont morts. David, en fait, déchire ses vêtements, fait le deuil, etc. Et donc, qui prépare, en fait, la transition vers l'élégie de David, qui met une fin provisoire à la relation avec Saül. Donc, après, on a ajouté cette histoire de l'Amalécite, à cause, donc, vous savez, c'est aussi une sorte de leitmotiv dans l'histoire de Samuel et David, les Amalécites. Donc, Saül n'a pas tué le roi des Amalécites, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis, David, en fait, va aussi mener des guerres contre les Amalécites. Mais, en fait, le récit de la mort, de l'apprentissage de la mort de Saül par David, en fait, va permettre de faire la transition vers l'élégie de David qui se trouve dans la deuxième partie du chapitre 2. David fait cette kina, cette complainte sur Saül et sur son fils Jonathan. Ça, c'est intéressant parce que les deux autres fils, on ne les mentionne pas. Donc, il y a Saül et Jonathan. Et ça va se terminer, en fait, par Jonathan. Donc, il dit... Et après, ça rappelle un peu les psaumes. À enseigner au fils de Judas, Arc, c'est écrit dans le livre du juste. Et après, il y a en fait deux parties. Ils sont tombés les héros trois fois qui encadrent en fait, disons, les deux parties. Donc la première partie, cette kina, il est dit qu'il fait partie d'une collection qui se trouve dans le rouleau du juste. Rouleau du juste, c'est un livre qui est aussi mentionné dans le livre de Josué, et peut-être, mais il faut corriger un peu le texte grec, peut-être aussi dans Un roi vite. Donc peut-être il y avait une collection de chants, sorte de petit, pas psautier, mais une petite collection, donc où peut-être se trouvait cette élégie. Et donc la deuxième partie, dans la première partie, on a Saül et Jonathan, encadré par les filles de Philistins qui ne doivent pas se réjouir et les filles d'Israël qui doivent pleurer sur Saül. Et ensuite, la deuxième partie où, en effet, il n'y a que Jonathan dont on parle. Donc, que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Tu fais de mon plaisir, Naam. Ton amour était pour moi une merveille plus que l'amour des femmes. Donc là, parfois aussi, dans les traductions, vous avez « ton amitié était pour moi meilleure que l'amour des femmes ». En hébreu, c'est compliqué parce que ces deux font la même racine, donc je pense qu'il faut être un peu cohérent dans la traduction. Et donc là, certains commentateurs, c'est pour la première fois que David parle vraiment de « je » à la première personne par rapport à Jonathan. Et donc une sorte d'implication du sujet qui est affecté et blessé par le décès de celui qui lui était le plus cher. Donc là, on a clairement cette préférence de l'amour de Jonathan à celui des femmes. Et donc du coup, il faut se poser la question comment il faut l'interpréter. Est-ce que c'est simplement de dire « voilà, cette relation est bien supérieure à tout amour charnel » comme on l'a fait traditionnellement, ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a probablement quand même autre chose, puisque, je vous ai déjà dit, il y a des comparaisons possibles, évidemment, avec le monde grec, on l'a vu surtout pour 1 Samuel 18, mais il y a aussi cette comparaison avec Gilgamesh et Enkidu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gilgamesh et Enkidu. Donc Enkidu qui va être les dieux vont décider de le faire mourir. Et Gilgamesh va également entonner une élégie. Hein, avec voilà, mon ami que j'aimais si fort, qui avait franchi avec moi tous les obstacles, s'en est allé au destin de l'homme jour et nuit. J'ai pleuré sur lui, je n'ai pas permis qu'on l'enterre pour voir si mon ami se lèvera à mes cris. Donc c'est pas une dépendance littéraire, mais c'est un peu la même idée. Et d'ailleurs, et on l'a souvent souligné, la comparaison de la relation entre Gilgamesh et Enkidu avec l'amour des femmes, c'est très clair aussi dans l'histoire de Gilgamesh, puisque avant que les deux amis se rencontrent, Gilgamesh fait des rêves qui sont interprétés par sa mère, qui est une déesse, et qui dit en effet, parce qu'une hache qui lui tombe à côté des cuisses, et puis on lui dit, mais tu l'as aimé, donc l'hache c'est ton compagnon qui va venir, tu l'as aimé comme une épouse, tu l'as couvert de caresses. Donc là aussi, on ne peut pas dire que c'est simplement une amitié virile, donc il y a aussi là une dimension érotique qui est présente. Donc du coup, la question, et puis je vais m'arrêter avec ça, la question de savoir si ces relations peuvent être qualifiés d'homosexuels, c'est une question un peu anachronique. L'homosexualité est une invention en fait, du 19e siècle. On commence en fait, à classer l'humanité en deux catégories par rapport aux pratiques sexuelles, ce qui en fait est quelque chose qui, dans l'Antiquité, n'est pas actuel. Donc, ce qui est intéressant dans Gilgamesh et Enkidu, mais aussi dans certains textes grecs ou ici dans David et Jonathan, c'est que ces relations peuvent être en effet empreintes d'émotions, de tendresse qui traditionnellement on dit réservées aux femmes, mais on voit que ce n'est pas en effet une manière de voir les choses. Donc certains parlent en fait de liminalité, c'est-à-dire de trouver en fait, parce qu'évidemment Jonathan et David ont des femmes, donc ce n'est pas une relation exclusive, hein, mais en même temps, on laisse un espace aussi pour une relation, voilà, comment dire, teintée de tendresse. Et donc, ce n'est pas simplement une complicité politique, théologique, par rapport à la loyauté, par rapport à qui va devenir le prochain roi, mais il y a aussi quand même des sentiments d'amour qui sont inclus dans cette relation. Voilà, la semaine prochaine, nous allons partir à Endor chez la sorcière, qui n'en est pas une, évidemment, et donc nous faisons une petite pause maintenant, et nous avons donc ensuite le séminaire qui va en effet être mené par Yann Ruckel, qui va nous parler de la dynastie davidique. Donc on est tout à fait dans le sujet. Voilà, alors bonne semaine à ceux qui partent, et à tout de suite.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.